Chapitre 3. Philippe avait repris connaissance dans la matinée, et Corinne téléphona à Bayot vers midi pour lui dire qu'elle rentrait chez elle prendre quelque repos. Le médecin avait vainement cherché le sommeil durant toute la matinée, et la fièvre n'était pas tombée. C'est donc dans un état d'épuisement physique presque total qu'il se rendit de nouveau à Michel Servet, espérant que Philippe serait à même de lui parler. L'interne apprit à Bayot que les premières réactions du malade étaient excellentes et qu'une nouvelle transfusion n'avait pas été nécessaire. Le professeur Courcelles-Fessac repassera en fin d'après-midi. Il a demandé qu'on l'appelle à la moindre complication. Bayot ne put s'empêcher de penser qu'il y avait parfois du bon à être professeur agrégé. Philippe reposait, mais dès qu'il sentit une présence près de lui, il ouvrit les yeux et sourit à son père. « C'est toi, papa ? C'est gentil d'être venu. Tu as été prévenu cette nuit ? Oui, c'est ta mère qui m'a appelé. La nuit a dû être bien dure pour vous deux. Oui, je n'aurais jamais pensé qu'une attente de 2 ou 3 heures pût paraître aussi longue. Es-tu sûr que tu ne te fatigues pas à parler ? Il faut que je parle. J'arrêterai si ça me fatigue. Pour le moment, ça me fait plutôt du bien. » Est-ce que c'est grave ? Bayot ne voulut pas mentir à son fils. L'ablation de la rate est évidemment une opération plus complexe que celle des amygdales. Pendant plusieurs jours, il faudra suivre avec attention les moindres réactions de ton organisme. Mais tu es jeune, et tu as de très grandes chances de t'en sortir. Mais après ? Oh, rassure-toi, beaucoup de gens vivent sans rate et ne s'en portent guère plus mal. Il faudra prendre certaines précautions, mais sincèrement, je ne pense pas que tu sois vraiment handicapé. Avec un peu de chance, tu pourras reprendre tes études à la rentrée. Tu vas même pouvoir prendre un peu d'avance sur le programme, avec toutes ces heures libres devant toi. Évidemment, tes vacances sont fichues. Oh, ça ne fait rien. Je n'allais pas en prendre. Et Muriel, tu veux que j'aille la prévenir ? Je ne sais pas. Théoriquement, tout est terminé entre nous depuis 15 jours. Ça devait finir ainsi, j'imagine. Bayot haussa les épaules. Dommage. Mais dis-moi, comment s'est passé cet étrange accident ? Philippe ne répondit pas tout de suite. Ce n'était pas un accident, dit-il enfin. Qu'est-ce que tu veux dire ? On n'a pas cherché à t'assassiner quand même. Oui et non. On n'a pas cherché à m'assassiner personnellement, mais on a cherché à me tuer. Explique-toi. Tu ne le diras pas à maman, encore qu'elle risque de l'apprendre par la police. Mon pauvre papa, tu n'y as vu que du bleu. Tu as toujours cru que ton fils était un dilettante qui ne s'intéressait qu'à la littérature russe. Tu fais de l'espionnage pour le KGB ? Oh, c'est beaucoup plus simple que ça. Je ne te l'avais jamais dit parce que je connais trop tes idées sur la politique. Ah, c'est donc ça. Oui, ta haine de tous les partis, ton mépris pour les politiciens, ton scepticisme envers toutes les idéologies, ton refus de t'affilier à quoi que ce soit. Au fond, tu es le seul véritable anarchiste de tout Paris. Oh, n'exagérons pas. Non, je ne suis pas complètement anarchiste. La preuve, je fais partie de l'ordre des médecins, bien connu, comme chacun sait, pour ses positions progressistes. Alors tu vois. Au fait, tu flirtes avec les trotskistes, la gauche prolétarienne, le parti communiste ou les castristes de la diaspora ? Philippe eut un sourire. Rien de tout cela. Tu vois que tu me connais bien mal. Je fais partie d'un groupement nationaliste, plus ou moins clandestin, qui essaie de se reformer depuis la dissolution d'Occident. Bayot éclata de rire. Tu as vraiment de la chance d'être sur un lit d'hôpital. J'ai envie de te passer une belle correction, tout majeur que tu es. Allez, au point où tu en es, tu ne dois plus rien me cacher. Qu'est-ce que tu faisais quand tu as été attaqué ? Une vieille Peugeot est arrivée alors que je collais des affiches avec quelques camarades boulevard Arago. Nous pensions qu'il y avait peu de risques en août. Il paraît que les gauchistes sont au bain de mer. J'ai vu la voiture arriver et j'ai tout de suite compris. On cherchait à m'écraser. Le choc a été effrayant. Ensuite, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Le médecin hocha la tête d'un air pensif. Qu'est-ce qui vous prend donc tous de coller des affiches? Est-ce que vous croyez que les gens s'arrêtent seulement pour les lire? Enfin, maintenant, je comprends que Muriel et toi, ça ne pouvait pas aller très loin. C'était Roméo et Juliette, version mai 68. D'un côté le gauchisme, de l'autre le nationalisme. Une union contre nature. Et ce nouvel observateur dont tu me rebattais les oreilles, c'était un voile de fumée, ça aussi? Pas seulement. Ça m'amusait de te provoquer. Et puis, il faut bien savoir ce qu'on pense dans les salons parisiens. Le médecin secoua tristement la tête. C'est curieux, tous ces écrans de fumée qu'on crée autour de moi. À la longue, ça va me faire tousser. De toute façon, ces subtilités m'échappent. Comme disait déjà mon père, la gauche et la droite, c'est du pareil au même. Mais tu te fatigues, mon petit. Cessons notre conversation. Nous la reprendrons un autre jour. Encore un peu, s'il te plaît. Dis, papa, est-ce que tu m'en veux vraiment? Bayot tapota la joue de son fils. Oh non, c'est à moi que j'en veux. Je n'ai pas réussi à te faire comprendre que la politique est absurde. Bah, tu es jeune, tu changeras d'avis. Tu deviendras un franc-tireur, toi aussi, et tout le monde te prendra pour un fou. Tu es un Bayot, après tout. Philippe sourit de nouveau. Non, avant tout. Bon sang ne saurait mentir. Je me demande si le proverbe est bien choisi. Pourquoi? Oh, une idée. Écoute, Philippe, tu ne vas pas me dire que tu y crois à leur salade. La justice sociale, parfait. Mais quelle partie ne la demande pas? Les valeurs, quelles valeurs? Les valeurs absolues, ça n'existe pas. Il n'y a que celles qu'on se choisit soi-même. La famille, le foyer, on y agonise à petit feu, et l'on s'y morfond en attendant que ça passe. Le patriotisme cocardier, eh bien, si ça mène à la grande boucherie de 14, je préfère encore me rallier aux socialistes de l'époque. Que les Israéliens défendent leur carré de champ, fort bien, mais en général, on ne sait même pas pourquoi on se fait tuer. Parce qu'entre-temps, vite fait, les politiciens retournent leur veste. Tu y penses, toi, aux tués de la guerre d'Algérie? Des barils de sang pour un verre d'Évian? Et Hitler, vous l'oubliez toujours, ce grand guignol. Tu n'aimes que les images d'Épinal, papa. Le nationalisme, ce n'est plus cela aujourd'hui. Allons bon. Vous faites du ravalement? Fini la Sainte Trinité, fidélité, honneur, patrie? Oh oui, je connais bien ma leçon. Vichy nous a tout expliqué à loisir pendant des années. Bon, c'est entendu, je ne pardonnerai jamais à De Gaulle d'avoir rejeté dans le même fourre-tout sanglant des gens qui n'avaient aucun rapport entre eux. Et je sais que Pétain était un honnête homme, ce qui, paraît-il, n'était pas toujours le cas de son entourage. D'ailleurs, mon petit, ma mère ne jurait que par lui. C'est pourquoi tu t'appelles Philippe. Tu me diras que j'aurais pu, moi aussi, entrer dans la résistance, au lieu d'attendre que ça passe. Mais enfin, ça ne veut pas dire que j'étais pour le nazisme. Ah non, merci. Je suis trop individualiste pour ça. Et je déteste l'héroïsme guerrier, l'exaltation des éphèbes, la discipline et les oriflammes. À tout prendre, je préfère encore le débrailler les gauchistes aux petits shorts amidonnés des Hitlerjugend. Tu es comme tout le monde, papa. Tu confonds tout. Fascisme, nazisme, nationalisme et extrême droite. Tu caricatures tout. Avec des gens comme toi, on en serait encore à l'âge de pierre. Moi, j'ai découvert la solidarité, la joie d'appartenir à un groupe, de lutter contre les marxistes, d'essayer de faire un monde meilleur. S'affilier, c'est la maladie du siècle. Les syndicats, les associations, les clubs et le reste. Eh bien oui, m'affilier. Que veux-tu? Il fallait bien que je me sente le fils de quelqu'un, après tout. Oh, excuse-moi, papa, je ne le pense pas vraiment. Bayot se tut et caressa le visage de son fils. C'est moi qui devrais te demander pardon, mon petit Philippe. Tu as raison. J'ai toujours refusé d'être le père de quelqu'un, comme j'ai refusé de faire partie de la communauté humaine. Allons, repose-toi. Nous avons trop parlé. Ça va te donner de la fièvre. Et j'en ai, moi aussi, figure-toi. Pour une fois, nous avons quelque chose en commun. Qui sait, d'ailleurs, si ma rate vaut mieux que la tienne? Payot resta de longues heures près de son fils endormi. Il constata avec tristesse que, pour la première fois, peut-être, il ne cherchait pas à le fuir pour s'enfermer dans son bureau. Ton bourreau de travail, comme disait Corinne, et y mener une existence solitaire qui avait toujours été la sienne. Philippe avait raison. On ne s'affilie que lorsqu'on se sent orphelin. Payot n'avait été qu'un prête-nom. Il n'avait pas su écouter. « Si ça continue, je vais être obligé de m'affilier, moi aussi, » songea-t-il, « au club des ratés, avec Lambert et Dorjal comme adjoints. Au point où nous en sommes, nous allons pouvoir nous lancer dans la politique et réussir. » Alors qu'il traversait la salle des pas perdus de l'hôpital, Bayot s'entendit interpeller. « Excusez-moi, professeur. » C'était Muriel avec ses longs cheveux blonds, sa poitrine agressive, ses blue jeans rapiécés et son regard de petite biche affolée. « Muriel ? Je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Comment va Philippe ? Il s'en tirera. »« Je peux aller le voir ? Mieux vaudrait l'éviter aujourd'hui. »« C'est idiot. Nous nous sommes fâchés il y a 15 jours. »« Depuis, je n'arrive pas à l'oublier. C'est lui que j'aime, vous savez. »« Je l'ai toujours su, Muriel. » Je vois tout de suite quand une femme aime un homme, à condition que cet homme ne soit pas moi, bien entendu. Pourquoi n'êtes-vous pas comme les autres, professeur ? Le médecin eut un geste d'irritation. Combien de fois vous ai-je demandé de ne pas m'appeler professeur ? Mais qu'importe. Et d'ailleurs, vous vous trompez, Muriel. Je suis comme les autres, hélas. Vous n'êtes pas comme mon père, en tout cas. Il ne vit que pour l'argent. Allons donc, dites-vous bien que l'avidité n'est qu'un masque. Elle cache quelque chose de plus essentiel, une angoisse secrète, un besoin de sécurité, un manque d'élan vital ou d'amour, ou tout simplement l'ambition, c'est-à-dire la sottise. Croyez-moi, Muriel, la sottise humaine est la chose du monde la mieux partagée. On a tort de croire qu'il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Les seules personnes qui soient méprisables, ce sont les monolithes, les gens des certitudes, les porte-drapeaux, les théologiens de tout poil et les inconditionnels de la bêtise. Oh, je sais, ce n'est pas facile, mais il faudrait haïr toute certitude. Vous me direz qu'une telle conception de la vie conduit à l'inertie. Pas tout à fait. Je veux bien qu'il y ait des révolutionnaires ou des saints, mais à une seule condition, qu'ils doutent encore au fond d'eux-mêmes. C'est pourquoi, finalement, j'ai toujours aimé la condition humaine de Malraux. Muriel écoutait le médecin sans trop comprendre pourquoi il avait soudain décidé de lui dire ces choses. Muriel écoutait le médecin sans trop comprendre pourquoi il avait soudain décidé de lui dire ces choses. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi durant ces 15 derniers jours. J'ai mis la révolution entre parenthèses. Je me suis dit que l'amour devait compter avant tout. » Payot alluma une cigarette avant de répondre. « C'est toujours ce qui m'a manqué. On ne s'est jamais intéressé à moi en tant qu'homme. Je me demande parfois si mes titres ne sont pas tatoués sur mon front. Titre est le mot de la langue française que j'exècre le plus. Il me fait songer à tout ce que je déteste, l'université, la banque et la presse. Quant à vous, Muriel, passez vos examens et brûlez ensuite vos diplômes, du moins mentalement. Aimez Philippe pour ce qu'il est, non pour la fonction qu'il occupera un jour. Ne vous tracassez pas, la révolution se fera sans vous. Et vous verrez qu'elle ne changera rien, hélas. Pardonnez-moi, Muriel, je choisis mal mon moment pour jouer les cyniques. Mais demain, il sera trop tard. Vous croyez vraiment qu'on ne peut rien changer ? Des petites choses, bien sûr, mais on ne peut gommer l'essentiel. Vous savez, Muriel, les gauchistes ne sont pas antipathiques. J'aime leur fougue et leur inquiétude. Moi aussi, figurez-vous, je rêve de justice sociale. La misère, je l'ai connue de l'intérieur, moi. Je ne suis pas comme Marx, Engels, Rocard ou Krivine, un autodidacte de la pauvreté. Ce sont des Don Quichotte, ces gens-là. Mais les moulins à vent sont toujours à la même place, parce qu'il y aura toujours des faibles et des forts, des génies et des imbéciles, des êtres volontaires et des amorphes, des bergers et des moutons. C'est la vie qui est injuste, car presque tout est joué à la naissance, n'en déplaise à Marx ou à Freud. La sélection est une loi de la vie. Rocard et Krivine n'y changeront rien, hélas. Rassurez-vous, j'ai fini. Je vous ai dit, Muriel, ce que je tenais absolument à vous dire. Et puis, après tout, allez donc voir Philippe, puisque vous êtes là pour ça. Chambre 413. Au revoir, prof. Au revoir, monsieur. Elle se précipita vers l'escalier. Puis, soudain, fit demi-tour et vint embrasser Bayou. Ça, c'est pour tout ce que vous m'avez dit. Et merci. Bayou suivit un instant la silhouette dégingandée qui s'éloignait vers l'ascenseur. Il songea à la fille qu'il aurait aimé avoir. Puis il se hâta vers la sortie, car il lui tardait de retrouver son appartement pour téléphoner à Lambert. « Allô, Yves ? C'est moi, Jean-Louis. Je voulais te remercier pour ce matin. Comment va ton fils ? À l'heure qu'il est, il doit retomber amoureux d'une petite gauchiste prête à renier Trotsky pour avoir le plaisir de s'appeler Madame Bayou. Si je savais que l'ablation de la rate me permettrait de jouer les Don Juan, je me précipiterais vers Michel Servet, ventre à terre. Tu as vu Courcelles Fessac après l'intervention ? Oui, il est venu se féliciter d'avoir été aussi habile. Ah, celui-là, je ne sais pas ce qui m'a retenu de le passer par la fenêtre. Il a débarqué au bloc en beuglant comme une vache que son week-end était foutu. Il a jeté son veston au visage d'une infirmière et a traité son assistant de tous les noms. Quant au boulot, rien à dire. Un orfèvre. Mais finalement, je ne sais pas de quoi il se plaint. Cette histoire va encore lui permettre de parader au prochain cocktail. Encore une intervention réussie qui lui servira d'amuse-gueule et toutes les nanas en décolleté rêveront de se faire enlever la rate par le grand Courcelle Fessac. En un sens, je m'amusais comme un fou. Un vrai vampire. Il m'aurait pompé tout mon sang, cet idiot-là, si l'assistant boutonneux n'était pas venu lui dire au creux de l'oreille qui j'étais. Du coup, il a tout lâché et est venu s'excuser auprès de moi de son énervement dû à une journée harassante. L'interne m'a confié ensuite qu'il était arrivé la veille à 12:45 pour repartir à 2 heures de l'après-midi, comme d'habitude. Tu te rappelles ce qu'on disait pendant le service militaire ? Le produit du travail par le grade est une constante. Je trouve que ça lui va comme un gant. En attendant, j'ai eu envie de crever les pneus de son coupé Mercedes, garé devant la porte d'entrée, alors que le parking était à moitié vide. Mais je me suis dit que ce serait encore l'interne de l'accueil qui, entre deux infarctus, devrait rafistoler les chambres à air, histoire d'avoir une chance de plus à l'agrégation. J'ai donc réprimé mes velléités criminelles. Il m'a dit qu'il annulait sa chasse en Sologne pour rester sur le pied de guerre. Yves de Lambert éclata de rire. En fait de chasse, il est spécialisé dans les cailles parisiennes. Il a donné à son assistant le numéro de téléphone de sa maîtresse. Encore un qui va rentrer ce soir chez lui en disant qu'il a dû passer une journée au bloc opératoire. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Eh bien, moi, Jean-Louis, sur ce plan-là, je ne crains pas la concurrence. Et je pourrais aller déterrer un menhir à Carnac pour le lui balancer en pleine gueule. Dis donc, je croyais que tu partais en vacances au mois d'août. J'ai annulé. Ce sera pour plus tard. De toute façon, je n'en ai plus pour longtemps dans le service.
Qu'est-ce que tu racontes ?
J'ai demandé ma mutation en Bretagne. Retour aux sources.
Hein ?
Oui, mon vieux Jean-Louis. Je ne supporte plus la vie parisienne. Si ça continue longtemps, je vais me mettre à construire des barricades. Et puis les nouveaux internes ont des têtes qui ne me reviennent pas. Surtout le dénommé Gouzan.
Gouzan ?
Ça ne te dit rien ? Tu as oublié le fameux professeur Gouzan, la nullité crachotante que nous avons dû subir pendant 4 ans à Poitiers ? Mais le fils ne ressemble peut-être pas à son père.
ce sont des choses qui arrivent.
Et le serment d'Hippocrite, qu'est-ce que tu en fais?
Je m'entends encore. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père.
Alors tu parles, si je dois apprendre à Gouzan ce que son père m'a appris, ça risque de ne durer que le temps d'un café crème.
C'est donc pour rester fidèle à mon serment que je mets les voiles. Mission impossible.
Ils se séparèrent sur une nouvelle plaisanterie.
Payot se réjouissait d'avoir appris la prochaine mutation de son vieil ami.
Car il ne s'y trompait pas.
Il savait qu'il ne partait qu'à cause de lui, parce qu'il n'aurait jamais pu accepter de prendre sa place et de travailler dans un service dont tout lui aurait rappelé l'amitié qui les avait unis. Il s'en allait aussi pour que Bayot pût prendre seul une décision qu'il savait inéluctable.
C'est vraiment l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré, pensa Bayot.
Sous des airs gouailleurs, il cache une noblesse d'une rare pureté.
Un médecin tel que je les aime.
Il se mit à fouiller dans sa bibliothèque et retrouva enfin le texte du serment d'Hippocrate auquel Lambert avait fait allusion. Il ne put s'empêcher de le relire avec un sourire. En présence des maîtres de cette école, de mes chers condisciples, et devant l'effigie d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent, et je n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères si j'y manque.
Courteline, pensa-t-il, n'aurait pas fait mieux. Il songea soudain à cette jeune femme qui, après avoir brillamment soutenu sa thèse sur l'importance de l'intervention de Hallstead dans le cancer du sein, avait déclaré sous le coup de l'émotion « Je donnerai mes seins gratuits à l'indigent ». Elle aurait peut-être, tout compte fait, moins de mal que les autres à tenir son serment d'hypocrite, comme l'appelait Lambert. Combien de fois lui-même, en recevant certains honoraires, ne s'était-il pas dit qu'il gagnait plus d'argent en quelques heures que son père ouvrier en un mois de dur travail ? Je n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Oui, mais certains médecins plaçaient si haut leur conception du travail qu'aucun honoraire ne leur paraissait moralement inacceptable. On sonnait à la porte, c'était Chantal. Ils s'étreignirent en silence, puis Bayot expliqua à son ami ce qui s'était passé durant les dernières 24 heures.
« Tu vois, dit Chantal, tu devrais te soigner, ne serait-ce que pour ton fils. »
« Oh, mon fils est assez grand pour se tirer d'affaire tout seul.
C'est d'ailleurs ce qu'il a toujours fait.
Je crois qu'il a récemment découvert que son père n'était pas cet homme lointain et froid qu'il imaginait. Mais il est trop tard pour que nous allions ensemble jouer aux billes sur le parvis de Notre-Dame.
« As-tu pensé à moi ?»«
J'y pense tous les jours, Chantal. Mais sois raisonnable. Tu sais que ma maladie est irréversible. »
Dis-toi bien que malgré les apparences, je suis tout bonnement un malade.
C'est-à-dire que je vis déjà dans un autre monde. Nous ne raisonnons plus de la même façon. J'ai découvert que dans ces cas-là, ça ne servait à rien de parler à un malade. Le condamné à mort, c'est celui qui n'entend plus ce que lui disent les vivants. Ou en tout cas, il ne l'entend plus de la même façon. Autant s'adresser à lui en chinois ou en swahili. D'ailleurs, tu ne supporterais pas le spectacle de ma déchéance. Vois-tu, je t'aime profondément. Tu le sais bien. Il est possible qu'il te faille quelque temps pour m'oublier. Mais tu es solide, Chantal, et tu tiendras le coup.
Il n'y a donc rien qui te retienne à la vie ?
Jean-Louis Bayot ne répondit pas. Il n'était plus là, et se disait que depuis quelque temps,
la fièvre était enfin tombée. Il espérait que cette accalmie serait de quelques jours et qu'elle lui permettrait enfin d'aller à Chauvigny.
« Tu ne réponds pas, » dit Chantal.
« Je n'accepte pas, moi, l'idée de ce lent suicide. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un te retient la vie, oui ou non ?»«
Lambert, évidemment. Au fond, tu l'aimes mieux que moi. »
« Laisse donc Lambert où il est. »
Cette jalousie l'irritait comme elle l'avait déjà irritée si souvent quand elle se manifestait chez Corinne. Jalousie ténue mais insurmontable dont il avait encore eu la preuve le matin même.
« Eh bien, puisque c'est ainsi, déclara Chantal en se levant, je m'en vais. Je te laisse avec tes petits problèmes, ton petit orgueil, ton stoïcisme anachronique et ton Lambert. »
Elle s'arrêta brusquement. Et ses mains se mirent à trembler.
Pardonne-moi, reprit-elle, d'une voix étranglée. Je t'ai menti. Je ne peux pas jouer cette comédie jusqu'au bout. C'est Dorjal qui avait raison. Il faut une âme de boucher pour traverser la vie sans crier. Et nous n'y pouvons rien, ni toi, ni moi.
Bayot voulut la retenir, la prendre dans ses bras, la supplier de rester jusqu'à la fin. Délier peut-être ce noir nœud d'amertume qui lui broyait le cœur depuis si longtemps. Pourtant, par fidélité peut-être à lui-même, il se devait de rompre cette dernière amarre. Déjà son frêle esquif de chair et de souvenirs se crispait sous la bourrasque, mais dans ces embruns d'adieu qu'il avait tant redouté naguère, il percevait aujourd'hui une étrange douceur. À quoi bon se redresser, une fois de plus, songea-t-il. Il n'aurait pas trop de toutes ses forces quand l'heure enfin serait venue. La porte se referma doucement. Le beau filtre de la cigarette de Chantal achevait de se consumer dans le cendrier de marbre. L'âcre odeur qui s'en dégageait mit de longues minutes à se dissiper. Une heure plus tard, alors que Bayot tentait de terminer le dernier volume du journal de Julien Green, le téléphone se mit à sonner. Il se précipita, pensant qu'on l'appelait de l'hôpital Michel Servet. Ce n'était que Wallenberg.
« J'espère, mon cher professeur, que je ne vous arrache pas à vos importants travaux. »«
Nullement. J'avoue cependant que votre appel me surprend. Vous travaillez le dimanche maintenant ?»«
Le sabbat est terminé, mon cher professeur. Écoutez, il faut absolument que je vous voie rapidement. »«
Dès ce soir, c'est au sujet de ma demande ?»
Wallenberg éclata de rire.
Votre demande suit son cours. Les apathiques de service s'en occupent avec le molle enthousiasme qui caractérise l'administration française. Non, il s'agit de quelque chose de grave. Passez me voir à l'intérieur.
Oui, j'ai changé de crêperie.
Non, vraiment, je ne puis vous en dire plus. On a tellement fait placer d'écoutes téléphoniques ces dernières semaines que je suis persuadé qu'on m'espionne. Mon cher professeur, à tout à l'heure. Bayot descendit immédiatement, monta dans sa voiture et se dirigea vers la place Beauvau. Il eut peine à se frayer un chemin parmi les groupes de journalistes qui, semblait-il, bloquaient les principales issues du ministère. David Wallenberg, plus radieux que jamais, l'attendait dans le vestibule d'entrée. Mon cher professeur, j'espère que les fauves de l'extérieur ne vous ont pas trop griffé. Ceux de l'intérieur ne sont pas plus dangereux, rassurez-vous. Et votre fils, vous avez de bonnes nouvelles, je crois.
Comment savez-vous que...
C'est devenu mon métier de tout savoir. Nous voici devenus confrères. Chaque matin, je prends la température de la France. Mais c'est justement de votre fils que je voulais vous entretenir. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ils traversèrent toute une série de couloirs avant d'arriver devant une porte qui ne présentait aucun signe extérieur.
« Nous y sommes, » fit Wallenberg.
« Entrez, je vous en prie. »